France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La France se souvient, 10 ans après les attentats islamistes de Paris et de Saint-Denis. 132 morts, les commémorations ont débuté ce matin au Stade de France. Avec les mots de Sophie Dias, son père Manuel y a été assassiné le 13 novembre.
Je prends la parole aujourd'hui avec une émotion immense. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide qui ne se comble pas. Mais il y a aussi les souvenirs que rien ne pourra effacer.
Nous serons sur place dans un instant, nous verrons comment la cérémonie musicale qui aura lieu ce soir près de l'hôtel de ville de Paris a été imaginée entre recueillement et rock, nous dira son organisateur Thierry Reboul. Et puis nous verrons ce qui a changé dans nos vies depuis ce 13 novembre sur les réseaux sociaux pour les alertes mais aussi pour la sécurité dans les salles de spectacle. À suivre encore, la nouvelle vie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, libéré hier. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Il est hospitalisé chez vous en Allemagne.
Il subit en ce moment des examens médicaux. Tout s'est passé très vite hier. 7 heures à peine après l'annonce de sa libération, Boualem Sansal a atterri à Berlin. L'Allemagne a joué un rôle majeur dans sa libération.
A tout de suite pour vos précisions. Nous verrons également que les eurodéputés ont détricoté ce matin les obligations des grandes entreprises sur l'environnement et que la veuve de la directrice d'école qui s'était suicidée il y a quelques semaines dans le Cantal a déposé plainte contre l'éducation nationale. À partir de 13h30, nous parlons ensemble du braille indispensable pour lire, pour les déficients visuels, mais il subit la concurrence des nouvelles technologies. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. La malbouffe, préoccupation récente, mais très longue histoire, nous dira Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse de jazz Louise Knobile demande la mère du blues, Ma Rainey, à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une question intime. Participer ou pas aux commémorations des attentats du 13 novembre, quand on y a perdu un proche ou qu'on a soi-même échappé à la mort ce soir-là. La question se pose avec encore plus de force. Cette année, 10 ans après, Elisabeth Boissineau n'est pas à Paris aujourd'hui, mais chez elle, à Poitiers. Sa fille Chloé a été assassinée sur la terrasse du Carillon. Elle n'y est pas revenue depuis 2017. Trop douloureux.
Je regarde la télé, les infos, les... Bon. Toute la journée, ça passe. Hein. Hier soir, j'ai regardé un documentaire. Ben, oui, c'était sur le 13 novembre. Je prends un café avec mes amis. Je vois des gens qui me regardent et qui chuchotent. Donc, je pense, tiens, ben, c'est la dame qui a perdu sa fille. Dans le courant de l'année, c'est... Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « je vous connais ». Voilà, c'est moins triste. Mais là, cette semaine-là, ça va être très difficile. Là, je me dis, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Et ma vie est en morceaux, de toute façon. Toutes les mamans qui ont perdu un enfant savent que leur vie ne redeviendra jamais la même qu'avant.
Le témoignage d'Elisabeth Boissineau au micro d'ici Poitou, la terrasse du Carillon, précisément, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous y étiez il y a quelques minutes. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous suivez depuis ce matin ces commémorations officielles. Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend sur chacun des lieux des attentats aujourd'hui.
Oui, il est attendu dans quelques secondes désormais devant le bar La Bonne Bière et devant ce qui était il y a 10 ans le restaurant Casa Nostra où 5 noms vont être lus, les noms des 5 victimes qui ont été fauchées ici il y a quelques instants à quelques centaines de mètres en effet devant le Carillon et le Petit Cambodge. Ce sont 13 noms qui ont été égrenés. Le président de la République a pris le temps ensuite de s'entretenir en privé avec les proches, les familles de victimes, les rescapés qui sont réunis. On l'a vu, notamment Emmanuel Macron avec son épouse et la maire de Paris, Anne Hidalgo, très émue, les larmes aux yeux, enlacée la mère de l'une de ces victimes. Mais il y avait aussi sur ce carrefour en étoile du 10e arrondissement de Paris où se trouve le Petit Cambodge et le Carillon, cette image très belle, le restaurant et le bar qui ont été si durement touchés il y a 10 ans, ouvert avec l'enseigne lumineuse allumée. Évidemment, ils ne peuvent pas recevoir du public aujourd'hui en raison de ces commémorations, mais ils ont tenu à dire qu'ils étaient toujours là, debout, qu'ils continuaient à recevoir des Parisiens, des visiteurs, en salle, en terrasse, évidemment, et à dire que la vie dans ces quartiers, malgré tout, ne s'est jamais arrêtée.
Et cette journée d'hommage, Simon, a commencé là où cette nuit d'horreur a débuté. À Saint-Denis, au Stade de France, une victime là-bas, Manuel Dias, qui avait conduit des supporters de foot avec son car.
Il avait 63 ans, Manuel Díaz. Il a été tué, effectivement, par ses kamikazes. 6 autres personnes ont été très grièvement blessées aux abords du Stade de France ce soir-là. Et puis, il y a les dizaines de blessés légers et de blessés psychiques aussi. Et c'est pour eux que la fille de Manuel Díaz, Sophie Díaz, a tenu à prendre la parole pour que ces victimes du Stade de France ne soient pas oubliées, pas effacées de la mémoire collective.
Nous n'oublierons jamais. On nous dit de tourner la page 10 ans après. Mais l'absence est immense. Que les commémorations de cette tragique nuit du 13 novembre ne soient pas les dernières. Que le site du Stade de France ne soit pas oublié dans les livres d'histoire. Que nos écoliers connaissent ce lieu où tout a commencé.
Sophie Díaz, qui sera d'ailleurs la seule proche de victime à prendre la parole officiellement au cours de ces différentes cérémonies jusqu'à ce soir, après le Petit Cambodge, le Carillon, la Bonne Bière, la Casa Nostra, le Stade de France évidemment, on l'a entendu, il y aura dans quelques minutes le comptoir Voltaire, et puis la belle équipe. Le Bataclan, évidemment, ce sera à 14h30 et à 18h30 dans le jardin du souvenir, ce jardin du 13 novembre 2015, derrière l'hôtel de ville de Paris, la cérémonie officielle, cérémonie, vous l'avez dit Jérôme, très musicale pour rendre hommage à ces 132 victimes qui aimaient la vie et la musique.
Cérémonie musicale dont on va parler avec Thierry Reboul dans une minute. Merci Simon Le Baron, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Vous êtes à Paris, vous nous parlez de ces commémorations à Paris ce matin, Simon, mais d'autres villes commémore ces attentats aujourd'hui. C'était le cas à Lyon ce matin à l'hôtel de ville. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous y avez assisté ?
Oui, c'est encore en cours. Dans la cour de l'hôtel de ville, environ 500 Lyonnais écoutent le visage fermé la préfète Fabienne Bussiaux dire la fidélité de la nation, fidélité aux 130 vies fauchées, dit-elle, et aux 1300 enfants dont la vie a basculé ce soir-là. À Lyon, on sait ce que signifie la résistance, ajoute le maire Grégory Doucet. 10 ans après, Lyon se souvient, la France se souvient, mais elle continue de vivre. Dans la foule, des personnalités, l'ancien maire Michel Noir, Jean-Michel Aulas, de nombreux anonymes, comme Barbara, membre de l'association Sa Presse, qui défend les caricatures.
Je crois que c'est ma plus grosse douleur générationnelle, en fait. D'ailleurs, j'ai déjà les larmes aux yeux. Vous voyez, on en repense. Je me souviens avoir pleuré pendant 48 heures. Parce qu'on vient du spectacle, parce que moi, j'ai une amie qui était dans le bus, qui allait voir le concert et qui s'en est sortie vraiment. Voilà, elle est arrivée en retard, heureusement. Le bus avait un bouchon. Et du coup, ouais, pour des gens comme nous qui avons vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers, on s'est vraiment senti attaqué. En plus, un groupe qu'on aimait bien. On aurait bien pu y être. Donc voilà.
Les participants qui le souhaitent signent un livre d'or, tandis qu'on entend « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel, chanté par Camilla Jordana, Naïm et Nolwenn Leroy. C'était quelques jours après les attentats aux Invalides en 2015.
Merci Christophe Vincent, en direct de Lyon pour Inter. Bonjour Thierry Reboul.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. C'est vous qui avez pensé, imaginé cette cérémonie musicale qui aura donc lieu ce soir à Paris à partir de 18h. Vous qui avez été le concepteur des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques l'an dernier. On l'entend dans les témoignages, dans les récits depuis quelques minutes. Thierry Reboul, cette histoire est toujours extrêmement douloureuse. Quand on écrit une telle cérémonie, on est sur un fil ?
Oui, on est sur un chemin de crête entre... les morts et les vivants, c'est d'ailleurs ce que faisait une chanson pour les morts et une chanson pour les vivants, les associations les années précédentes, et j'ai récupéré cet élément. Il y aura aussi ce soir une chanson pour les morts et une chanson pour les vivants, parce que on peut pas faire une synthèse de ça, donc il faut faire les deux.
Vous avez travaillé avec votre complice des Jeux, le compositeur Victor Lemann, qui a composé pour l'occasion ces Requiem des Lumières. Je voudrais qu'on en écoute quelques notes. Requiem qui sera notamment interprété ce soir par le chœur de Radio France. Thierry Reboul, cette cérémonie, vous l'avez écrite pour et avec les victimes et avec les associations de victimes.
Oui, on a beaucoup échangé sur ce que devait être cette commémoration et que à chaque fois que voilà, j'avais une idée, ils en avaient aussi, je partageais avec eux pour savoir si justement j'étais bien sur ce chemin de crête ou si il y avait là la moindre dérive. C'est vraiment toute la sensibilité qu'il faut essayer d'avoir sans renier. Mais s'ils ont fait appel à moi, ils le savent, sans renier la volonté de faire quelque chose de spectaculaire et de sobre à la fois, ce qui est un autre chemin de crête.
Sans elles, sans ces victimes, peut-être n'auriez-vous pas été aussi audacieux? Il y a peut-être des choix que vous seriez interdits.
Écoutez, il y a des choses parfois où, vous voyez, effectivement, les éléments se sont inversés, où je me dis non, et puis je leur en parle et ils me disent mais si, il faut. Ils ont cette culture rock dont je me suis inspiré et parfois c'est eux qui m'ont poussé.
Donc beaucoup de rock ce soir aussi, Thierry Robol.
Oui, un fil rouge, beaucoup de références qu'il faudra bien évidemment essayer d'entendre et d'avoir, mais on va essayer de le faire comprendre à tous. Et puis, plus largement que ça, bien sûr, la culture, la danse, la littérature, et comme on vient de l'entendre aussi dans le cadre du Requiem de Victor Lemann, la musique classique.
Parce que ce sont ce soir-là un mode de vie, une manière d'être le sport, aller au stade et aller au concert qui ont été attaqués, pris pour cible, et ça, il ne faut pas l'oublier.
Non, on chante dans un stade, on écoute de la musique dans un bar et sur une terrasse en général. Et bien évidemment, quand on va en concert, on est au cœur de ça. Et ça, c'était à la fois leur passion et leur drame. Et moi, j'ai voulu vraiment repartir de ces passions-là, même si elles sont parfois tristes et infiniment tristes, mais de les rappeler pour que ça leur ressemble.
Merci Thierry Robol d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14 de la culture de la musique, donc dans cette cérémonie ce soir. Et ce requiem que l'on vient d'écouter, signé Victor Lemann, je le signale, est téléchargeable. Les bénéfices vont aux associations de victimes du 13 novembre. J'ajoute que cette cérémonie sera diffusée sur France Inter ce soir à partir de 18h. Que le grand public peut y assister depuis la place de la République à Paris avec des écrans géants. Il y a déjà beaucoup de fleurs, beaucoup de mots qui ont été déposés depuis quelques jours au pied de la statue de la République. Et puis sachez que les cloches de Notre-Dame et des églises parisiennes vont retentir ce soir entre 17h57 et 18h02. Alors 132 morts, plus de 350 blessés dans Paris et à Saint-Denis, près d'un stade, sur des terrasses de café, dans une salle de concert. Attentats préparés en Syrie mais perpétrés par des djihadistes français et belges. Cela a évidemment bouleversé nos vies. Nous avons déjà parlé des changements pour le renseignement, pour l'action des forces de l'ordre, mais les questions de sécurité ont été débattues de manière beaucoup plus large depuis le 13. Nous verrons dans un instant ce qu'il en est pour les salles de spectacle. Avant cela, avec vous, bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Intéressons-nous aux réseaux sociaux. Ce 13 novembre, Facebook avait activé pour la première fois sa fonctionnalité Safety Check, pour la première fois pour un attentat. C'était pour rassurer ses amis.
Oui, fonctionnalité lancée un an plus tôt par Facebook, à l'origine pour les catastrophes naturelles. L'idée d'ailleurs vient de développeurs basés au Japon, marqué par l'utilisation massive des réseaux sociaux lors du tsunami de 2011. Au cours de l'année 2015, le service est donc utilisé lors d'un typhon, un cyclone, un ouragan et plusieurs séismes. Mais c'est bien en France donc que Facebook l'active pour la première fois dans le cadre d'un attentat. Les utilisateurs localisés à Paris reçoivent une notification. Êtes-vous, oui ou non, en sécurité? Un message s'affiche ensuite sur leur profil, si c'est bien le cas. Le soir du 13 novembre 2015, plus de 5 millions de personnes se signalent sur le safety check de Facebook. Il est ensuite réutilisé pour d'autres attaques terroristes, dont celle de Bruxelles et de Nice l'année suivante.
Et depuis, ce dispositif s'est encore étendu.
En tout cas, il s'est enrichi. Déjà, ce n'est plus à l'entreprise seule de l'activer, répondant ainsi aux critiques de déclenchement tardif ou d'absence de déclenchement. Elle s'appuie désormais sur la communauté et une vérification des faits, ce qui permet aussi d'échanger de l'aide. La dernière activation en France date de la tornade dans le Val d'Oise. Mais il faut dire que Facebook n'est plus aussi hégémonique qu'à l'époque, boudé par les jeunes notamment, et puis qu'on a développé des outils d'urgence efficaces, comme le dispositif FR Alert, déclenché là par les autorités, qui permet permet de faire sonner tous les téléphones d'un même secteur en cas de grand danger, quel qu'il soit.
Des systèmes d'alerte donc plus performants, merci Xavier Demagny. Et puis des dispositifs de sécurité revus de fond en comble dans les salles de spectacle. Antoine Balandra, vous l'avez constaté en Alsace.
Exemple à l'Entrepôt, un théâtre de Mulhouse. Depuis les attentats du 13 novembre, le personnel est plus vigilant, assure la directrice Sarah Marguier.
On est plus attentif. Voilà, avant on était très détendu sur les allées et venues des gens. On est plus à l'affût, on regarde plus ce qui peut se passer.
Au Zénith de Strasbourg, plus gros Zénith de France, avec plus de 12 000 places, la sécurité a aussi été considérablement renforcée depuis les attentats, comme l'explique sa directrice Sylvie Chauchois.
Simplement, aujourd'hui, une obligation de ne pas seulement regarder dans les sacs, de sous-peser les sacs, mais de bien les ouvrir, de fouiller dans le sac, si vous voulez. Et il y a donc un contrôle plus spécifique depuis 10 ans. Ça a été renforcé à la palpation. Lorsque le public arrive au Zénith, avant de passer son billet, il y a une palpation beaucoup plus pointue.
La sécurité est devenue l'une des dépenses principales pour les salles de spectacle et les festivals, responsable de 21% de la hausse des dépenses selon le Centre National de la Musique. Un vrai budget, mais indispensable, souligne Thierry Danet, le directeur de la Laiterie, une salle de plus de 1000 places à Strasbourg.
La sécurité, c'est un élément très important, c'est une figure imposée du budget quand on crée un événement. C'est vrai que depuis le Bataclan, cet impact, il est d'autant plus grand.
Le prix à payer aussi pour rassurer les spectateurs. Selon le baromètre 2025 du spectacle vivant, 53% des Français déclarent se rendre au moins une fois par an à un spectacle. Un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier.
Précision ici, Alsace. Gros dispositif de sécurité aussi ce soir autour du Parc des Princes à Paris. C'est d'ailleurs l'expression employée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Tout cela avant le match France-Ukraine de ce soir. Match qui peut permettre, en cas de victoire, à l'équipe de France de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de football l'été prochain. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Mais pas question de grande fête du foot ce soir.
Non, effectivement, il y aura beaucoup d'émotions au Parc des Princes. Une grande bâche qui va être déployée dans le rond central lors de l'échauffement jusqu'au coup d'envoi, très sobrement avec ce mot « paix » au milieu. Et puis évidemment, il y aura une minute de silence. Mais cette minute de silence, vous savez, les Bleus la font chaque fois qu'ils se retrouvent. Et chaque année, depuis les attentats, on a des fenêtres internationales avec l'équipe de France au mois de novembre. Et qu'il y ait match ou pas le 13, eh bien les Bleus parfois se retrouvent en petit comité et font une minute de silence entre, vous savez, le staff des Bleus et autour de Didier Deschamps a vécu les événements au Stade de France en 2015 puisque les Bleus jouaient contre l'Allemagne. C'est beaucoup plus fugace pour les plus jeunes et les joueurs actuellement. Beaucoup étaient très petits. Kylian Mbappé, lui, avait 16 ans. Il se souvient, il était au centre de formation à Monaco. Il avait eu très peur, il nous l'a dit hier, parce qu'évidemment ses parents étaient encore abondis, ils ne savaient pas ce qui se passait.
Les joueurs, Xavier, vont donc devoir se concentrer sur l'objectif sportif qui est très important.
Ben oui, parce qu'au-delà du contexte pesant, il faut essayer de rendre le sourire et de faire plaisir aux gens ce soir. C'est ce que disait Kylian Mbappé en conférence de presse hier en décrochant ce billet pour la Coupe du Monde. C'est très simple, pas besoin de sortir les calculettes ou de faire des comptes d'apothicaire. Si les Bleus battent l'Ukraine ce soir, ils seront officiellement qualifiés pour le Mondial et pourront ainsi se projeter sur l'été aux États-Unis. Mais si les Bleus l'emportent pas, alors là, il faudra aller chercher le billet à Bakou en Azerbaïdjan dimanche et personne ne veut en arriver là, surtout pas les joueurs.
Merci Xavier Monferrand pour ces explications. France, Ukraine ce soir au Parc des Princes à Paris, coup d'envoi 20h45.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Boualem Sansal s'est réveillé ce matin, pour la première fois depuis près d'un an, loin de sa prison d'Algérie. L'écrivain, âgé de 81 ans, malade du cancer, est arrivé dans la soirée à Berlin, en Allemagne, après la grâce prononcée hier par le président algérien. Et il a été immédiatement hospitalisé. Sébastien Baer, on vous retrouve en direct de Berlin. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur le rôle joué par l'Allemagne ?
Ouais, alors ce qu'on peut dire aussi déjà, c'est que Boualem Sansal se trouve dans l'hôpital militaire de la capitale allemande pour l'instant, pour subir toute une batterie d'examens, pour être soigné aussi pour son cancer. Boualem Sansal va retrouver en toute fin de journée son épouse, qui va le rejoindre ici à Berlin. Premières heures de liberté donc pour l'écrivain, qui il y a 24 heures était encore à Alger. Mais après l'annonce de sa grâce, tout s'est accéléré. Un avion militaire a fait l'aller-retour hier Berlin-Alger. Sur le tarmac, à 21h, Boualem Sansal a été accueilli par l'ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre.
Ce fut un grand moment d'émotion. Je l'ai trouvé rayonnant de bonheur d'être libre, très chaleureux, dans une condition physique satisfaisante, si je peux en juger, les examens le vérifieront. Il m'est littéralement, si je puis dire, tombé dans les bras, soulignant par ailleurs sa reconnaissance à la France pour son soutien constant. Ça l'a beaucoup marqué.
Il aura donc fallu la médiation de l'Allemagne pour obtenir la grâce de Boualem Sansal. Paris, fâché avec Alger, ne pouvait plus négocier. Pendant 12 mois, Berlin a été à la manœuvre, en coulisses, un rôle neutre de tiers de confiance que salue l'ambassadeur.
Cette coopération étroite, transparente, continue avec l'Allemagne, eh bien, a été cruciale. Je pense que ce sont ces moments où on voit qui sont vraiment nos amis les plus chers. C'est une illustration du fait que voilà, la diplomatie patiente, quotidienne, produit des résultats. Donc oui, c'est un beau jour pour notre diplomatie.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le président allemand a formulé sa demande de grâce cette semaine. Son entourage savait que le moment était opportun. Des signaux côté algérien laissaient entrevoir une issue proche et positive.
Sébastien Baer, en direct d'Allemagne, ce matin sur France Inter, l'éditeur de Boualem Sansal, Antoine Gallimard, est venu dire son bonheur de le voir libre. Libre et plus que jamais écrivain.
C'est quelqu'un qui a passé un an comme un vrai poète aussi, comme quand on était dans la Seconde Guerre mondiale ou que on connaissait des gens qui écrivaient leur prochain roman dans leur tête. Et il a lu tout Victor Hugo, il a passé un temps fou à devenir ami avec ses voisins. Et il a évidemment souffert, il était très très malheureux de ne pas avoir sa femme, ses amis, de ne pas avoir du papier pour écrire. Mais en même temps, il a une vie intérieure immense. C'est un vrai poète.
Vous dites qu'il a son prochain livre dans sa tête ?
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
L'éditeur de Boualem Sansal, Antoine Gallimard, avec Benjamin Duhamel. Le chancelier allemand hausse le ton après la mise en cause de deux ministres ukrainiens dans une affaire de corruption. Ils ont tous deux été suspendus. Friedrich Merz, qui apporte l'aide financière la plus importante à l'Ukraine, a eu ce matin au téléphone le président Volodymyr Zelensky et il lui a demandé de lutter avec énergie contre la corruption. Fin de citation. Au Parlement européen, à Bruxelles, les eurodéputés ont voté ce matin la baisse des contraintes pour les grandes entreprises, moins d'obligations pour elles en matière sociale ou encore environnementale, ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, Fabien, droite et extrême droite ont à nouveau uni leur voix dans ce vote.
Effectivement, elles viennent d'adopter les mesures qu'elles ont négociées et amplifiées ensemble ces dernières semaines, au grand dam des partenaires habituels de la droite au sein de la coalition qui soutient la Commission européenne, la gauche et le centre avec qui aucun accord n'avait pu être trouvé. L'extrême droite crie victoire ce midi, tandis que les écologistes, à l'image de Marie Toussaint, crient au scandale environnemental et politique.
C'est un jour très triste pour l'Europe que ce jour où on voit la droite, c'est une alliance très claire avec l'extrême droite pour détruire le modèle européen de protection sociale et environnementale. C'est une vraie entreprise de destruction de ces lois qui protègent la nature, à commencer par les plans de transition climatique requises des entreprises, comme par exemple Total. On est en pleine conférence sur le climat, on est complètement à contresens, à contre-courant. C'est un véritable abandon de l'action pour le climat et pour le vivant.
Outre les plans climat des entreprises, les obligations en cas de violation des droits de l'homme par des sous-traitants passent-elles aussi à la trappe ? Seule consolation pour les partisans du pacte vert européen, l'approbation, lors de la même séance de vote ce midi, de l'objectif climat 2040 qui prévoit à cet horizon-là une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90% par rapport à 1990.
Et le député européen Jordan Bardella, député du Rassemblement National, lui salue, je cite, une victoire décisive après ce vote. Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Deux séries d'arrestations ces dernières heures dans deux enquêtes. D'abord à Roubaix, après le braquage à l'explosif hier devant le principal bureau de poste de la ville. 6 personnes ont été interpellées. Aucun préjudice financier, assure ce matin le groupe La Poste. Et puis à Rieux-la-Pape, près de Lyon, après le tournage d'un clip sauvage de rap qui avait déclenché un incendie dans un immeuble de la commune, c'était samedi. 5 personnes ont été placées en garde à vue, dont le rappeur, âgé de 18 ans. Elle s'était donné la mort le jour de la rentrée scolaire. Caroline Grandjean, directrice d'une école dans le Cantal, commune de Moussages. Elle était en arrêt maladie à l'époque après avoir été la cible de harcèlement en raison de son homosexualité. Eh bien, sa veuve a déposé plainte contre l'éducation nationale pour harcèlement, car dans des écrits laissés avant sa mort, Caroline Grandjean évoquait, je cite, un acharnement et un manque de soutien de sa hiérarchie. Alors Christine Pacou, sa veuve, accuse aujourd'hui le ministère ainsi que le maire de la commune, maître Stéphane Juillard et son avocat.
Ma cliente aujourd'hui, c'est clair qu'elle souhaite continuer le combat qui était mené par Caroline qui en voulait beaucoup à l'administration de l'avoir privé finalement de son poste. Et pour cela, j'ai d'abord besoin de consulter l'ensemble des procédures qui avaient été ouvertes par Caroline Grandjean, qui ont été classées sans suite par le parquet d'Aurillac. Caroline avait ce combat qu'elle souhaitait mener et il sera mené par Christine. On est, à mon sens, sur deux sujets de société. Hein. C'est la manière dont sont traitées ces affaires-là par l'éducation nationale et c'est la lesbophobie. Donc voilà, c'est deux sujets de société qui sont importants et pour lesquels on va se battre. Donc si l'éducation nationale a commis des fautes, il faudra qu'elle l'assume.
Maître Stéphane Juillard au téléphone de Sonia Princet. Un nouveau survol de drones illégal en Dordogne, au-dessus du site du leader européen d'explosifs Eurenco. Cela s'est produit hier midi. Il y avait déjà eu un survol illégal de drones lundi au-dessus du même site. C'est une société qui produit de la poudre à propulsion d'obus. Une enquête a été ouverte. À l'Assemblée nationale, les débats sur le budget de la sécurité sociale se sont terminés la nuit dernière. Mais d'autres vont reprendre l'examen du projet de loi de finances du budget de l'État pour l'an prochain et sous vigilance du chronomètre puisque les députés ont maintenant 4 jours pour tout boucler avant le vote solennel prévu lundi sur ce volet des recettes. Problème, il y a 2000 amendements à examiner. Alors la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, veut accélérer le rythme et proposer un temps législatif programmé. La mesure doit être discutée aujourd'hui, mais Jérôme Val, elle est loin de faire l'unanimité.
C'est le seul moyen d'avancer et de se discipliner, se justifie l'entourage de Yaël Braun-Pivet, avis partagé par la députée Renaissance Prisca Thévenot.
Quand vous avez 4 ou 5 députés de la même famille politique qui vont prendre la parole pendant 2 minutes pour défendre précisément la même chose, on peut se dire qu'ils prennent une seule prise de parole.
Car aujourd'hui, le règlement de l'Assemblée nationale n'est plus adapté à ces débats à rallonge, regrette le député Liot Harold Duvart.
Il est parfaitement adapté pour gérer les problèmes de la France de 1888. Hein. C'est 3 textes de loi par an. Et un petit budget de l'État restreint à quelques millions de francs or. Ça n'est plus le sujet.
D'où ce temps législatif programmé avec un nombre d'heures maximal de débat en fonction du poids de chaque groupe politique. Et forcément, le premier d'entre eux, le Rassemblement National, voit cette mesure d'un bon œil, son porte-parole Thomas Ménager.
Ça permettrait d'éviter ce vers quoi on s'oriente, c'est-à-dire un gouvernement qui pourrait faire passer un budget par ordonnance parce que les délais sont dépassés.
Sauf qu'à gauche, on ne veut pas en entendre parler, le député socialiste Arthur Delaporte.
Ça réduit mécaniquement le temps des oppositions. Nous, ce que nous souhaitons, c'est plutôt que les oppositions puissent faire valoir les différentes modifications qu'elles ont par rapport au temps du gouvernement.
Si la présidente de l'Assemblée n'arrive pas à l'imposer pour le débat en cours, ce dispositif, promet-elle, sera de nouveau proposé plus tard.
Précision signée Jérôme Val. Encore un mot de sport. Nous avons parlé il y a quelques minutes du match de l'équipe de France de football ce soir face à l'Ukraine. L'équipe de France de rugby, elle sera opposée après-demain à Bordeaux au Fidji. Fabien Galthié a donné la composition ce matin. 6 changements dans le 15 de départ des Bleus avec notamment le retour en troisième ligne du Rochelet Grégory Aldrit et au poste de demi de mêlée du Toulonnais, Baptiste Serin, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, nous parlons du braille, alphabet universel. Pourquoi les déficients visuels sont-ils de moins en moins nombreux à l'utiliser? Il y a les nouvelles technologies, mais elles ne font pas tout. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. 13h45, notre feuilleton cuisine à la cantine du collège dans la Manche et on essaye de tenir le budget. C'est 2 euros par élève. Vous allez voir que c'est pas tout à fait facile. 13h50, c'est la France et c'est une chanson Marilus Ribot et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marilus, en cuisine aussi, pour nous parler de la malbouffe. Ça n'est pas nouveau dans notre histoire.
Non, la malbouffe, elle date même de la nuit des temps. Et on va voir qu'on n'a pas attendu l'avènement de l'agro-industrie pour mal manger et se confronter à des scandales sanitaires.
Et avec vous, Frédéric, une jazz woman.
Elle s'appelle Louise Knobile. Elle est à la fois chanteuse, compositrice, bassiste électrique, contrebassiste et arrangeuse. Elle vient de faire paraître son premier album et avec elle, nous écouterons un blues des années 20 signé Ma Rainey, un hymne à l'homosexualité féminine.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce jeudi, je vous raconte le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui débute en septembre 2021 et se termine fin mai 2022. 20 condamnations sont prononcées par la Cour d'assises spéciale de Paris.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur France Inter.
Mathilde nous parle du bilan auditif de sa maman chez Audica.
Elle nous faisait tout le temps répéter, ça devenait gênant pour elle et pour nous. Elle osait même plus dire qu'elle avait pas compris et elle se coupait de nous. Donc je lui ai pris rendez-vous pour ce bilan auditif chez Audica. Ça a été un moment formidable pour elle et pour nous, ça a tout changé en fait.
Comme Mathilde, faites confiance à Audica et ses experts pour réaliser un bilan auditif complet et gratuit. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour vous ou pour un proche. Audica, expert et à votre écoute. Marque préférée des Français. Étude OpinionWay décembre 2024, bilan non médical.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Une ambiance encore très douce cet après-midi.
Oui, une moyenne qui va de 16 degrés à Cherbourg jusqu'à 25 à Biarritz en passant par 17 à Paris, 20 degrés à Lyon, 22 à Bordeaux, à Marseille également ou 24 à Tarbes. Des températures qui vont rester douces encore demain et puis elles vont commencer à baisser tout doucement ce week-end et surtout la semaine prochaine.
Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine?
À partir de mardi, on a de l'air polaire qui revient, donc de l'air polaire, de l'air froid.
Beaucoup de degrés.
Bah, pour vous donner une idée, 3 à 5 degrés du nord au sud, ça c'est pour le matin et pour l'après-midi. On aura une moyenne qui ira, et je cherche ma petite feuille pour vous donner une idée, de 9 à 12 degrés du nord au sud.
On peut l'interroger sur n'importe quel sujet, la réponse est exceptionnelle. On va rester sur cet après-midi, Céline, le ciel encore très calme.
Oui, ciel voilé sur les trois quarts du pays, un petit peu comme hier. On a un voile nuageux qui est un peu plus épais sur l'ouest du pays, donc des éclaircies plus franches sur l'est. On a toujours des nuages près de la Manche qui se sont étalés, qui ont gagné toutes les côtes de la Manche cet après-midi avec quelques faibles averses. Toujours un ciel couvert sur le Languedoc-Roussillon, avec là aussi des averses sur le relief des Cévennes. Et puis toujours ce vent de sud qui souffle fort, hein, jusqu'à 110 km à l'heure sur les Pyrénées cet après-midi.
Prudence donc, Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une invention française qui fête cette année ses 200 ans et qui a changé la vie de millions de gens depuis deux siècles. Le braille que l'on doit à Louis Braille. Cet alphabet universel pour les aveugles, non-voyants mais aussi malvoyants qui permet de lire du bout des doigts grâce à un système de points en relief. Mais sa pratique se perd peu à peu. Il n'est plus maîtrisé que par 15% des près de 2 millions de déficients visuels en France. Alors les nouvelles technologies sont là. Mais elles ne font pas tout. Nous allons en parler avec vous et avec nos invités. Pascale Hizel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aveugle de naissance. Vous êtes formatrice en informatique adaptée pour déficients visuels. En quoi cela consiste, Pascale Hizel ?
Alors en fait, l'informatique adaptée pour les déficients visuels, ça veut dire qu'on va utiliser un ordinateur standard, classique, ou une tablette ou un smartphone maintenant, puisque les technologies ont évolué, et on va le coupler à un logiciel qu'on appelle un lecteur d'écran, qui va avoir pour fonction de surveiller en permanence tout ce qui se passe à l'écran, et de le restituer soit en synthèse vocale, soit en braille, grâce à un petit appareil que l'on va connecter en plus au smartphone. Donc pour le smartphone, ce sera en Bluetooth, et pour l'ordinateur, ça peut être par câble USB. Et donc ce lecteur d'écran, mon rôle à moi, est d'apprendre aux utilisateurs, donc aveugles et malvoyants, à utiliser ce lecteur d'écran pour pouvoir ensuite accéder à Word, à Excel, ou à la messagerie, à Internet, à tout un tas de choses textuelles, faut pas se raconter d'histoire, on n'est pas encore l'utilisation de l'image, mais en tout cas, on va apprendre à utiliser ça, ce qui va nous permettre d'avoir accès à ces technologies, que ce soit pour un usage domestique au quotidien, et puis professionnel évidemment.
Avec nous également Lorraine Messeca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes conférencière, vice-présidente du Campus Louis Braille, qui a été créé il y a moins d'un an. Avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce que le Campus Louis Braille ?
Le Campus Louis Braille, c'est un incubateur de start-up, en fait, qui s'adonne à essayer de trouver des solutions, justement, technologiques, pour pouvoir améliorer le quotidien des déficients visuels. Donc, Louis Braille était le précurseur, le premier innovateur, on va dire, le premier qui a proposé une innovation pour les déficients visuels. Et on essaie de continuer avec des innovations technologiques, mais on peut continuer à s'y atteler, parce qu'on n'y est pas encore. Enfin, je veux dire... ça commence. Il y a beaucoup d'innovation.
Il y a du boulot,
mais ouais, voilà, exactement. Il y a du boulot. On peut continuer.
Et ça se passe sur ce campus Louis Braille. 01 45 24 7000 pour vous tous qui souhaitez poser vos questions ou témoigner. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Vous passez également via l'application France Inter. Pascal Izel, vous utilisez le Braille. Vous, Lorraine Messeca, vous ne le maîtrisez pas encore. Tout simplement, car vous êtes en train de perdre la vue, c'est ça? Je précise que vous avez 39 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous arrive?
Oui, il m'a été détecté en 2021 une rétinopathie auto-immune. Donc, en gros, mon système immunitaire attaque les cellules de ma rétine et les détruise petit à petit. On a essayé de stopper avec plein de traitements, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, depuis 2022, je sais que je serai aveugle dans les années qui arrivent. On m'avait dit 3 à 4 ans, et aujourd'hui, effectivement, il me reste 4 degrés sur 180 degrés de champ visuel et une acuité de 1 sur 10.
Vous voyez extrêmement mal.
Oui, ouais. Je crois qu'on peut le dire.
On peut dire ça comme ça. Vous allez devoir vous mettre au braille ou vous êtes déjà en train de l'apprendre?
Alors, j'ai commencé lors d'une rééducation. J'ai eu la chance de pouvoir faire une rééducation pour apprendre à utiliser la canne et puis pour pouvoir un peu reprogrammer son cerveau à vivre une vie sans
yeux. Faut tout réapprendre.
Tout réapprendre. C'est une reprogrammation mentale assez fatigante, il faut le dire. Il faut tout réapprendre et justement, moi j'ai quand même envie d'apprendre le braille. Je sais qu'il y a deux écoles aujourd'hui. Il y en a une qui dit que les nouvelles technologies peuvent remplacer justement avec ces lecteurs d'écran. Je suis également en train aussi d'apprendre l'informatique et comme l'expliquait Pascal tout à l'heure. Mais j'ai quand même envie d'apprendre le braille parce que je pense que dans le quotidien, déjà dans les lieux publics, dans les ascenseurs, pour les jeux de société, je pense que ça peut encore servir. Et comme je suis conférencière, j'aimerais bien pouvoir maîtriser suffisamment le braille pour pouvoir prendre des notes sur des petites fiches lors de mes conférences et pour pouvoir me repérer si j'ai un trou par exemple. Donc je pense que c'est encore utile aujourd'hui d'apprendre le braille, mais je ne me fais pas d'illusions. Je ne pense pas qu'un jour je lirai le braille comme Pascal. Je ne m'imagine pas en train de lire des livres. Je crois qu'il faut...
Pourquoi Pascal... C'est dur, c'est très dur d'apprendre le braille?
Oui, bah déjà on passe d'un apprentissage visuel qu'on a toujours eu dans notre vie de voyant à un apprentissage par le toucher. Donc déjà, il faut pouvoir avoir une sensibilité suffisante pour pouvoir apprendre le braille. Et ensuite, Pascal me dira si je me trompe, mais je crois qu'il faut au moins 15 minutes par jour pendant 2 ans pour pouvoir lire de façon assez fluide. Donc imaginez, pour lire un livre, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et comme les technologies viennent compenser, voilà, j'essaye de pouvoir
vous servir des deux outils.
Exactement.
Ouais. Pascal Izel, c'est plus dur peut-être pour Lorraine, parce que pour les voyants comme pour les non-voyants, c'est plus difficile d'apprendre quand on vieillit aussi. Les enfants peut-être apprennent plus vite.
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, quand on apprend, moi j'ai appris le braille comme toutes les petites filles de ma génération, qu'elles voient ou qu'elles voient pas, à l'école ou au CP. Donc on apprenait à lire et à écrire comme tous les enfants. Ce qui est difficile en fait dans l'apprentissage du braille, outre le fait que peut-être on peut apprendre moins bien quand on est plus âgé, mais c'est pas tant le codage, c'est-à-dire d'apprendre quels sont les points qui représentent les lettres, c'est plus de les détecter au toucher. C'est ça qui est difficile. En plus, ça peut dépendre du métier qu'on a fait. Si on a été maçon et qu'on a les mains très abîmées parce qu'on a passé sa vie dans le ciment, ce sera plus difficile qu'une couturière qui a le toucher très affiné de par son métier. Ceci étant, comme l'a très bien dit Lorraine, même si l'objectif ne va pas être de le lire de façon très fluide comme on peut le lire quand on l'a appris très jeune, c'est un peu comme un instrument de musique. Si on apprend le violon à 50 ans, on sait qu'on sera pas concertiste, peut-être sauf exception, mais a priori non. Sauf que en travaillant tous les jours, et on peut avoir du plaisir à le faire, et on progressera. C'est pareil pour le braille. C'est vrai qu'on n'aura probablement pas une vitesse de lecture ultra rapide, mais on va pouvoir, oui, lire sur les médicaments, sur étiqueter ses papiers administratifs pour être autonome, jouer au Scrabble avec ses amis. Enfin voilà, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Jean-Louis est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Vous nous appelez de Boulogne-sur-Mer.
Bonjour à Pascal, que je connais bien, et bonjour à Lorraine aussi.
Vous dirigez une chorale à Boulogne, Jean-Louis.
Je dirigeais,
Très bien.
Mais à 86 ans, maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi je suis scandalisé parce que je ne comprends pas qu'on puisse abandonner le braille. Moi aussi, je l'ai appris tout petit, j'avais 7 ans et demi. J'avais 7 ans et demi et j'ai tout fait en braille. Toute la scolarité, comme pour tous les élèves, plus la musique. Parce que j'ai été organiste pendant 30 ans et j'ai dirigé le chorale aussi à Boulogne-sur-Mer. Donc après, j'ai par contre participé au développement de technologies modernes mes idées ont été retenues. Donc ça prouve que mes idées ne devaient pas être trop mauvaises.
Vous diriez voilà. Que le braille a sauvé votre vie, Jean-Louis ?
Oh oui, absolument. Absolument, absolument. Ouais. Mais le braille n'est pas si difficile que ça à apprendre. Merci. Moi, j'ai une technique que je ne peux pas développer ici parce qu'on n'a pas le temps,
non.
C'est ça. Mais c'est très très facile à apprendre le braille.
Merci. Moi, Jean-Louis, merci.
En quatre semaines. En quatre semaines, je savais lire. Doucement, bien sûr. Mais je savais lire.
Merci Jean-Louis pour votre témoignage en direct de Boulogne-sur-Mer. Pascal Hizel, qu'est-ce qui est difficile dans l'apprentissage du braille? Est-ce que vous partagez aussi le point de vue de Jean-Louis?
Alors moi, je dirais aussi que le braille, alors je ne sais pas s'il a sauvé ma vie, mais en tout cas, c'est un pilier de ma vie. Hein. Je l'utilise tous les jours, du matin au soir. Du matin au soir. J'ai quand même d'autres choses dans ma vie, mais je veux dire que ça sert dans tous les moments de la vie.
Mais il y a les nouvelles technologies aujourd'hui.
Oui, mais les nouvelles technologies, c'est là où effectivement, on a parlé du vocal. Le vocal, évidemment, ça nous aide beaucoup. Hein. Je ne suis pas anti-vocal, j'utilise...
J'ai un texte à écrire, je le parle, je le prononce et il s'envoie.
Oui, ben non, hein, parce qu'il faut passer derrière pour corriger quand même. Ah. Non, ce n'est pas possible.
Mais les correcteurs progressent.
Mais écoutez, j'ai encore fait un texte avec Siri ce matin. Heureusement que je me suis relu en braille derrière, sinon j'aurais eu honte. Hein. Non, mais en plus, bon, ce qu'on va... apprendre en écoutant ou apprendre en lisant, ça ne met pas en branle les mêmes zones du cerveau. Le mécanisme n'est pas le même, donc l'apprentissage ne sera pas de la même façon. Oui. Et les nouvelles technologies, moi je peux vous dire que j'étais une très grosse lectrice en braille sur papier quand j'étais petite, ado et jeune adulte. Eh bien, depuis qu'il y a les technologies, j'ai jamais tant lu en braille parce que quand j'entends parler d'un livre sur France Inter, par exemple, hein, si le livre m'intéresse, qu'est-ce que je fais ? Je vais l'acheter sur un site en ligne et je le récupère au format numérique. Et je le lis dans ma petite liseuse braille, là, comme tout le monde pourra le faire. Ouais. Et puis, si le livre n'existe pas, en format numérique, ben, je l'achète en librairie ou je l'emprunte à la bibliothèque, je le passe sur mon scanner et j'obtiens un document Word que je vais lire avec mes doigts en numérique. Donc, on ne peut pas opposer systématiquement nouvelles technologies et braille.
Avant de vous donner la parole, Lorraine Meseka, petite parenthèse sur le livre, puisque vous en parlez, Pascal Hizel, c'est beaucoup plus cher des livres en braille.
Alors, en fait, il y a peu de livres en braille qui se vendent. Il y a beaucoup de livres qui se prêtent. Ceci étant, il y a quand même un centre de transcription en braille qui est le CETEB à Toulouse, qui produit des livres en braille sur papier et qui, depuis 2024, je crois, ou 2023, ils me pardonneront si je me trompe, propose pour les particuliers le livre au prix du livre librairie, en librairie. Voilà, pour les particuliers. Mais autrement, oui, ça coûte cher, parce que même si la technologie avec les logiciels d'aide à la transcription aide beaucoup, on n'est plus à l'époque où c'était des personnes, je vais dire, des copistes, un peu comme les moines du Moyen-Âge, hein, qui copiaient les livres en braille. Ça, c'est quasiment terminé. Aujourd'hui, on a des logiciels, mais le prix de revient, ça demande un travail derrière. Les embosseuses, les machines qui impriment en braille sont chères, le papier est cher. Donc, oui, il y a un coût.
Lorraine Meseka, vous êtes passée au livre audio? Comment vous,
j'ai un peu de mal, pour être honnête. Ben justement, c'est assez intéressant. Je rejoins complètement Pascal. C'est très différent de lire un livre, ou en braille ou en noir, pour ce qui était mon cas jusqu'à aujourd'hui, ou d'écouter. C'est pas du tout la même attention. Et comme moi, je n'ai pas du tout l'habitude, puisque jusqu'à il y a 3 ans, je lisais des bouquins en noir, donc comme une voyante, j'ai un peu de mal à rester attentive lorsque j'écoute un livre audio. Donc, la bascule va se faire, mais comme il y a beaucoup de bascule à faire lorsqu'on perd la vue au cours de sa vie, j'y vais mollo. Mais par contre, moi qui aime écrire, par exemple, j'ai du mal avec le vocal parce que c'est, encore une fois, ça n'est pas du tout la même chose que de poser sa pensée à l'écrit, de la reprendre, de la retravailler, de trouver les bons mots, de réfléchir ou de la formuler à l'oral. Oui, la bascule est un peu...
difficile à faire.
Bon, de toute façon, perdre la vue, c'est forcément difficile. Mais bon, j'entends tout ce que vous dites sur le braille et donc je me dis que j'ai intérêt à me bouger pour essayer de le maîtriser au mieux, voilà.
Christo est en ligne avec nous de Paris, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
C'est très intéressant ce que je viens d'entendre, entre lire et écouter, par exemple.
Alors, j'ai deux personnes à l'antenne, on va essayer d'avoir juste Christo. Vous nous parliez des emballages, Christo.
Ce serait bien, donc, dans les emballages, que ce soit les emballages pour la nourriture dans les magasins, qu'il y ait le nom du produit, qu'est-ce qu'on achète, au moins, en braille.
Merci.
Par le toucher.
Ouais, merci Christo pour cette question. Lorraine Messeca, vous faites vos courses, comment ça se passe?
Alors, avec mon champ visuel très très réduit, donc 4 degrés sur 180, je ne sais pas si vous imaginez, mais vraiment, non, je fais mes courses en ligne en fait aujourd'hui. Grâce à aux nouvelles technologies, j'entends c'est un peu pénible d'entendre quelqu'un vous dire yaourt velouté, yaourt brassé, voilà, mais c'est moins pénible que d'aller pour moi dans un magasin en physique et d'essayer de trouver le yaourt que j'aime en passant millimètre par millimètre par millimètre et de descendre dans chaque étage, voilà, et d'être sûr de le louper. Donc je me fais livrer aujourd'hui. Voilà, le plus de livraisons qui seront accessibles et dont l'application sera accessible pour les non-voyants, le mieux ce sera. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus facile.
Et un dernier mot du braille. Pascal Hizel parlait il y a quelques minutes de l'importance, par exemple, dans les ascenseurs, dans les lieux publics, dans l'espace public. C'est toujours très important de savoir lire le braille, Lorraine ?
Je pense que ça va m'aider, oui. Aujourd'hui, je me fais aider en appelant à l'aide. Mais je pense qu'effectivement, l'autre jour, tout simplement hier, j'étais dans un espace public, j'avais une consultation et j'ai pas pu trouver le numéro 1 pour monter au premier étage.
Donc, c'était pas indiqué sur le.
En fait, je trouvais pas. Donc, et peut-être qu'il y avait du braille, mais du coup, je me suis retrouvée dans le noir complet. Donc, je suis allée au troisième et puis j'ai dit à une dame, je lui ai demandé à quel étage on était. Et elle m'a dit au troisième, je lui ai demandé si elle pouvait m'appuyer sur le 1. Voilà, bon. On trouve toujours des gens pour nous aider, quand même.
Ce qu'elle a fait.
Mais ça serait mieux si j'avais pu me débrouiller seule.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Dans ce 13-14, Pascal Hizel, formatrice en informatique adaptée pour déficients visuels. Lorraine Messeca, conférencière. Merci aussi à tous les auditeurs extrêmement nombreux. J'ai pas pu prendre tout le monde aujourd'hui à l'antenne, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, direction la cantine. Depuis lundi, nous suivons Sébastien, chef de cuisine au collège de 40 ans, Les Marais, département de la Manche. 700 enfants à nourrir chaque midi et avec une enveloppe financière à ne pas dépasser. Alors quand on veut des produits frais, il faut se creuser la tête. Aujourd'hui, c'est du rouget.
Rouget, t'es obligé d'avoir un peu d'arête. Bon, faut les arrêter. Hein. Parce que les enfants n'aiment pas les arêtes. Bon, faut enlever le plus possible. Il est frais. J'aime pas trop travailler le surgelé. Donc travailler du frais, ça me convient très bien.
Alors comme là, le rouget, là, combien tu le payes le kilo là ?
7,90.
7,90 le kilo ? Ouais. Bah non, c'est pas cher. Hein. Ça reste raisonnable pour du poisson, celle-là, c'est pas cher.
On a à peu près 2 euros par jour, par élève. Donc par repas du coup. Ils montrent avec des fournisseurs qui font des efforts aussi niveau tarif, parce qu'ils savent que niveau budget on est restreint quoi. Et la quantité, oui. C'est ça en fait le critère, c'est la quantité. On va pas avoir le même prix si je prends 2 kilos de rôti de bœuf, je vais pas avoir le même prix que si j'en prends 70 kilos quoi. C'est quand même un atout de poids pour négocier les tarifs. Je suis pas à leur place bien sûr, mais je pense qu'ils...
C'est quoi ?
La sonnerie. Là, c'est la récré. C'est un peu long.
On va attendre, on n'est pas pressé.
Voilà. On parlait de quoi, du coup ? Je sais plus. On pourrait pas y arriver si on n'avait pas des fournisseurs qui étaient à notre écoute aussi.
Ça, c'est une partie du travail que vous aimez, négocier, discuter avec les fournisseurs ?
Ah oui, c'est une grosse partie du travail que j'aime bien. C'est l'objectif, c'est... On a tant à dépenser, il faut pas en dépenser plus. Là, c'est ça qui me plaît. Aussi, après, il y a aussi la cuisine, bien évidemment, mais la partie gestion de mon métier me plaît aussi. Il y a des journées, le repas va me coûter 1,60€, par exemple. Bon, ça, c'est dans le plus bas. Comme l'autre jour, j'ai fait un pot-au-feu, la journée m'a coûté 2,48€ par élève. C'est une balance, en fait. Ah bah, on passe notre temps à calculer. C'est notre travail. La base du travail, c'est quand on fait les menus, déjà. La deuxième base du travail, c'est de surveiller les coûts, parce que la viande, le poisson et tout, c'est des prix variables. Donc en fonction de nos menus, des fois, il faut réajuster. C'est le travail de tous les jours, en fait, c'est un quotidien. Le saumon, je l'ai payé 13 euros.
13 euros le kilo, ouais. Et hier, on a reçu du saumon à 13 euros le kilo, quoi. Donc ça varie. En général, le lieu, on le touche à 10 euros le kilo. À peu près, c'est ça.
Il ne faudrait pas que 90% des enfants mangent du poisson, parce que ça pourrait pas le faire. Hein. Parce qu'à 12 euros, ça fait un morceau de poisson dans l'assiette à 1,40€. Hein. Donc t'as pas le légume pour 1,40€. Hein. Certains élèves, ils ne voyaient pas le travail qu'on fait, en fait. Quand je leur sers une crème dessert, c'est du maison, c'est du travail, c'est pas juste ouvrir une boîte. Et bon, bah, ça, les enfants, certains le ressentent, enfin le voient, mais il y en a, c'est une crème dessert comme une autre.
J'arrête, là, on fait du fumier de poisson pour faire la sauce. J'évite d'acheter du fumier de poisson en poudre. C'est un peu l'avantage de travailler avec du poisson frais, c'est qu'on peut récupérer les arêtes.
Et est-ce que vous proposez une option végétarienne ?
Alors, on doit la proposer une fois la semaine. Bon, ça fait pas fureur auprès des enfants. Hein. Faut pas se cacher non plus. Hein, l'option végétarienne, oui.
Ça dépend des élèves, quoi. Mais en fait, voilà, sur 300 élèves, on en a peut-être quoi, une petite dizaine, quoi, qui.
Qui va vouloir manger végétarien. Autrement, si on fait un plat végétarien, ils nous demandent le bout de viande, quoi. Et ça, faut réussir à faire entendre aux enfants, et c'est compliqué. Après, on peut pas produire non plus pour mettre à la poubelle. Mais bon, on va y venir. Hein.
On y mangerait bien dans cette cantine. On va le recruter dans la nôtre. Vanessa Descoureaux pour ses portraits avec Sébastien à 40 ans et son second Wilfried, suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h50, la France à table avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, la malbouffe se développe, hein, des enseignes de fast-food s'ouvrent chaque jour dans notre pays. Hier, c'était le 600e établissement Burger King qui était inauguré. Mais la malbouffe ne date pas d'hier.
Oui, on l'aperçoit comme l'une des plaies des temps modernes. On mange trop gras, trop sucré, trop salé, beaucoup trop. On se gave de junk food, littéralement de nourriture pourrie. Conséquence, l'obésité est galopante chez les 5-19 ans. Pour la première fois cette année, l'UNICEF vient de déclarer qu'elle est même la première forme de malnutrition devant la sous-alimentation. Toutefois, un ouvrage collectif mené par les historiens Stéphane Lebras et Corinne Marache nous apprend qu'on dénonce déjà ce fléau depuis l'Antiquité. Des auteurs comme Galien, Sénèque ou Pétrone décrivent leur dégoût pour ces repas où tout est excès et gloutonnerie. Souvenez-vous de la scène orgiaque du banquet de Trimalcion dans le film Satyricon de Fellini. Nous y sommes. Trop manger, c'est mal manger. Longtemps d'ailleurs, la malbouffe ne s'est cantonnée que dans le champ de la morale.
Et c'est devenu un enjeu sanitaire.
Oui, reprenons d'ailleurs un épisode du XVIe siècle qui fait écho à un phénomène bien contemporain, celui de la précarité alimentaire des étudiants. Le médecin Silvius s'inquiète de ces petits pâtés, sortes de burgers de l'époque, que les jeunes avalent à n'importe quel moment de la journée. Ces pains farcis de viande hachée ne coûtent rien. Leur jus gras et leur saveur relevée les rendent addictifs. Mais la viande est hachée si fin que le médecin soupçonne de l'adjonction de pâtés de chat. En 1555, le prévôt de Paris interdit leur vente à moins de 5 deniers afin de garantir leur qualité.
Ça, c'est du scandale sanitaire. Et ça ne va pas s'arranger, Marilus, avec la révolution industrielle.
Non, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit donc apparaître autour de Paris ou de Lyon les premières fabriques d'aliments standardisés. Et avec elles, les premiers additifs, le sucre raffiné, des conservateurs comme le borax qui entraîne des cancers de l'estomac. C'est le début des grandes fraudes alimentaires. On n'hésite pas, par exemple, à verser du plâtre pour épaissir le lait préalablement coupé avec de l'eau.
Très très bon.
La course aux marges financières est lancée, elle ne s'arrêtera plus. Dès cette époque, le géographe Élisée Reclus dénonce les excès du capitalisme et du consumérisme dans nos assiettes. Il est soucieux du bien-être animal et rejette la consommation effrénée de viande. Il serait à son aise dans les débats actuels. Mais il ne faut pas non plus oublier, Jérôme, que la malbouffe porte un autre visage jusqu'au XXe siècle. Jusque-là, on s'alimentait très mal dans les campagnes, note Stéphane Lebras. La nourriture manquée n'était pas assez variée. Les produits étaient roboratifs, mais peu nutritifs et on ne savait pas les conserver.
Mais toutefois, Marilus, vous ne nous proposez pas de recette de malbouffe aujourd'hui. Oh. Pas de plâtre dans votre recette.
Mais non, ce serait malvenu quand même. J'ai donc demandé à Olivier Chaput, réputé pour être le chef préféré des enfants, une recette qui pourrait avoir les atours de la malbouffe, mais qui n'en serait pas. Voici ces muffins dans un saladier. Mélangez 150 g de farine, 10 g de levure et 3 œufs. Incorporez 100 g d'huile d'olive, 120 g de lait demi-écrémé tiède. Ajoutez 100 g de gruyère râpée, une botte de ciboulette émincée. Versez l'appareil dans les moules à muffins et faites cuire 15 minutes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. L'intérêt, c'est que dedans, vous pouvez ajouter du thon, du jambon, des olives, de la feta, en fait tout ce que vous voulez, sauf peut-être de la viande hachée de chat.
Surtout pas. Merci Marilus Ribaud, en direct de Bordeaux, de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est une jeune musicienne de jazz. Elle est franco-suisse, que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric. Elle s'appelle Louise Knobil.
compositrice, bassiste, contrebassiste et chanteuse Louise Knobile sera sur la scène du New Morning à Paris la semaine prochaine. Et c'est un blues de 1928 qu'elle a souhaité que l'on écoute, un blues de l'américaine Marinée. La chanson s'appelle « Prove It on Me Blues ».
La chanson commence, elle sort de soirée, elle trouve plus son rencard. Et on comprend assez vite dans la chanson que son rencard, c'est une femme. On comprend aussi que c'est possible qu'il y ait eu plusieurs femmes dans cette soirée. On comprend aussi qu'elle est habillée en homme et qu'elle s'est plus ou moins battue, ou en tout cas qu'il y a eu une altercation dans cette soirée. Du coup, on imagine que tout ça pour l'époque avait une connotation assez masculine, et elle, elle arrive en disant « bah, je suis une femme au bras d'une autre femme ». Et ça m'étonnerait que ce soit autre chose vu que je n'aime pas les hommes. Elle dit vraiment ça dans cette chanson. Et ensuite, elle dit « prove it on me », prouver que je suis homosexuelle, que j'aime les femmes. Du coup, il y a un aspect politique profond et grave, et en même temps, c'est humoristique, quoi.
Et quand elle dit « prouvez-le que je suis homosexuel », elle s'adresse à la police.
Exactement. Et je trouve que c'est assez génial de se dire « mais quelle rebelle en 1928, une femme noire américaine pionnière du blues qui dit tout haut ce qu'elle pense en chanson et de manière artistique ». Ça me parle à fond, quoi.
When I last night had a great big fight, everything seems to go around. I looked up to my surprise, the gal I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know.
Alors, Ma Rainey, Frédéric, on la surnomme la mère du blues.
Une mère du blues qui chantait sa fierté d'être noire, d'être indépendante, d'aimer à la fois les hommes et les femmes. Et ce titre a totalement bouleversé Louise Knobile quand elle l'a découvert il y a quelques années.
Je dois avoir, je pense, 22 ans et je suis étudiante en contrebasse jazz à la Haute École de Musique de Lausanne. Et c'est un moment particulier pour moi parce que je suis entourée d'hommes. Dans ma classe, il n'y a que des hommes. Tous mes profs, c'est des hommes. Et les quelques filles de l'école ne font pas partie de la communauté LGBT de laquelle je fais partie. Du coup, c'est vraiment avec cette chanson et cette femme que je me rends compte que c'est possible de lier le jazz et mon identité.
Votre identité, que vous définissez de quelle manière ?
Je suis bisexuelle, ouvertement.
Et c'était ce que revendiquait également d'être cette chanteuse-là ?
C'est ça, elle le revendiquait ouvertement et même elle s'en amusait beaucoup et pouvait tendre mi blues. Moi, ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis dit « Mais attends, mais moi aussi j'ai le droit de faire du jazz et d'être ouvertement bisexuelle. »
Mais vous pensez que c'était impossible ?
Je pensais pas que c'était impossible, mais par contre, il y avait rien dans mon entourage ni dans mon quotidien qui me rendait à l'aise, rien que de me revendiquer ouvertement en tant que telle. Et puis, aucun exemple, en fait, autour de moi.
Ça veut dire que cette chanson, elle vous a vraiment libérée ?
Oui, d'une manière assez profonde même. Je suis un peu émue rien que d'en reparler maintenant. Dans le sens où, oui, vraiment, j'étais dans une position sociale particulièrement inconfortable. Et en même temps, j'apprenais une musique que j'adorais. Du coup, il y avait une forme de dichotomie qui était juste épuisante au quotidien et ça m'a libérée profondément de ça.
Vous êtes une grande amoureuse ?
Oui.
Ça veut dire que vous tombez beaucoup amoureuse ?
Je sais pas si je tombe beaucoup amoureuse, mais je tombe amoureuse de plein de façons différentes. Dans le sens où j'écoute ma clarinettiste jouer et je me dis « mais j'ai envie de l'épouser ». Et après, j'écoute mon batteur jouer et je me dis « mais j'ai envie de l'épouser aussi ». Et je suis aussi ce qu'on appelle polyamoureuse, c'est-à-dire que j'entretiens plusieurs relations en même temps, dans le respect et dans la bienveillance. Après, je pense qu'on est toujours bien ancré dans un modèle hétéronormatif avec le mariage, les enfants, etc. Mais je trouve que c'est important des fois de se rappeler que c'est pas parce qu'on se sent pas tout à fait à sa place qu'on n'a pas le droit d'exister.
Cette chanson-là, vous arrivez de l'écouter encore ?
Oui, même relativement souvent. Et d'un point de vue purement esthétique, j'aime beaucoup le son de ce vieux blues, de sa voix inimitable. Et ça m'inspire autant artistiquement que personnellement, je dirais.
Louise Knobil, qui sera le 17 novembre, donc dans quelques jours, en concert à Paris au New Morning. Prove It On Me Blues, Marine. C'était Frédéric, le choix de Louise Knobil. J'ai dit votre texte.
Alors je le répète.
Oui, elle est quand même au concert.
On redonne son actualité. Louise Knobil qui sera le 17 novembre en concert où ça? À Paris.
À Paris, voilà.
À quel endroit?
Ben, c'est au New Morning.
Eh ben, ça fait trois fois qu'on le dit. C'est
Merci,
formidable.
Merci Frédéric et à demain.